Des artistes, il y en a des tas. Mais chacun d'eux a connu une carrière bien différente. Il est peut-être temps d'en reparler un peu. On se met un disque. T'as entendu ça? Ça, c'est une chanson du groupe français Atoll. Elle s'appelle L'âge d'or et elle ouvre le quatrième album du groupe, Rock Puzzle, sorti en 1969. Atoll est l'un des groupes français de rock progressif des années 70 les plus connus, mais à l'inverse de Ange, véritable étendard du progressif à la française dans l'Hexagone et à l'international, leur renommée a injustement faibli dans leur propre pays avec le temps, du moins auprès du grand public. En l'occurrence, Rock Puzzle est peut-être pas foncièrement leur meilleur album, mais c'est celui qui a justement clos leur âge d'or. L'histoire d'Atoll commence en 1972 à Metz, et du coup, pour une fois, je m'autorise un petit po-po-po en tant que Lorrain, parce que je pense pas que j'aurais mis l'occasion de te parler d'un artiste originaire de la région où j'ai grandi. Y a pas que les Bretons qui ont le droit de force avec leur région, hein. Bref, c'est dans cette ville que sont nés le batteur Alain Gozo, le guitariste Luc Serra, et l'autre guitariste Jean-Luc Thillot, ou Thillot, je sais pas. Trois musiciens français qui, à l'époque, avaient déjà chacun écumé pas mal de groupes locaux malgré leur jeune âge, et c'est dans cette même ville que nos trois lascars font la connaissance d'un certain Mike Bazzani, qui deviendra d'ailleurs bien des années plus tard l'un des guitaristes de Johnny Hallyday. Ce Mike Bazzani, après un petit bœuf improvisé avec les trois messins, leur propose de le suivre à Paris, dans l'optique de fonder un groupe plutôt acoustique, ce qu'ils acceptent. Ils partent donc pour la capitale, mais n'y restent pas longtemps, puisque le label qui avait envisagé de signer Bazzani ne donnera finalement pas suite, provoquant de fait leur départ. C'est dans le train qui les ramène vers Metz que Thillot et Serra commencent à ébaucher plusieurs mélodies et à émettre l'idée de fonder un groupe à eux, dans la veine de ce que faisaient America et Crosby, Stills, Nash & Young. L'idée prend forme quelques temps plus tard, et c'est Jean-Luc Thillot qui propose le nom d'Atoll, censé évoquer l'ambiance induite par le rock californien de leur modèle, à savoir le soleil, la plage, les voyages et toutes ces sortes de choses. Nos trois comparses se mettent alors en quête d'autres musiciens pour compléter leur trio parmi leurs vieilles connaissances, et leur choix se porte finalement sur le chanteur André Balzer, cousin d'Alain Gozo, et le bassiste Francis Paul. Tout ce petit monde se connaissait déjà plus ou moins, puisque certains avaient déjà officié ensemble dans d'anciens groupes, comme Gozo qui avait déjà joué avec Serra et Paul, mais aussi avec Thillot, au sein d'un groupe local appelé Divodurum, qui est le nom latin de la ville de Metz. Tu le sais si t'as lu Astérix. Ils tentent également d'engager un claviériste en la personne de Serge Peratonnerre, mais qui choisissent de pas garder pour des raisons pratiques et artistiques. Pour anecdote, ce Serge Peratonnerre deviendra plus tard compositeur pour plusieurs films et séries, travaillera avec Michel Berger et France Gall entre autres, et créera le générique devenu culte de l'émission Ushuaïa. Mais enfin bon, Atoll commence à répéter, et à rapidement se créer un répertoire propre, en plus de faire quelques reprises de chansons américaines et anglaises, comme Fever ou Stairway to Heaven. Ils donnent leur premier concert officiel à Forbach en Moselle le 23 juin 72, en tant que première partie d'un groupe appelé Zo, avant de partir en tournée un peu partout, passant notamment au Golf de Rouault à Paris. Cette tournée leur permet de rencontrer des artistes comme Julien Clerc, Hugo Frey ou Véronique Sanson, qui leur conseillent fortement d'aller trouver des maisons de disques au vu de la qualité de leur musique, ce qu'ils tentent de faire, mais sans grand succès pour l'heure. Puis en juin 73, le groupe s'agrandit avec l'arrivée du percussionniste et claviériste Michel Taillé. Désormais au nombre de 6, les membres d'Atoll repassent en ce même mois de juin au Golf de Rouault, où ils remportent la deuxième place du Super Tremplin, ce qui leur permet d'obtenir quelques beaux articles dans des magazines et de commencer à vraiment faire parler d'eux, avant d'être approchés par le label Eurodisc qui les engage. Très rapidement, le groupe entre en studio et sort entre octobre 73 et février 74 deux 45 tours qui sont chaudement accueillis, et se vendent même assez bien grâce en partie au coup de pouce de l'animateur radio Jean-Bernard Hébé qui passe régulièrement leur premier disque dans son émission, et les invite à s'y produire en décembre, leur faisant de fait pas mal de pubs. Seulement, et malgré de belles promesses d'avenir vu leur petit succès, Francis Paul choisit de quitter le groupe au début de l'année 74, remplacé par Patrick Kiefer, et Atoll continue de s'interroger en plus sur la bonne direction musicale à prendre. Après concertation, les membres du groupe choisissent finalement d'abandonner le style relativement californien et commercial de leur début, pour se lancer dans un style qui correspond beaucoup plus à leurs aspirations du moment, le rock progressif. Une fois leur choix fait, le nouveau bassiste Patrick Kiefer est poussé vers la sortie pour cause d'incompatibilité artistique, et le poste revient au bout du compte à Jean-Luc Thilot, qui troque sa guitare à 12 cordes pour la basse, lui laissant à peine 15 jours pour se familiariser avec ses nouvelles parties de basse avant l'enregistrement de leur premier album Musicien Magicien. Le groupe enregistre au studio d'Antibes pendant une quinzaine de jours dans d'assez bonnes conditions, et l'album sort en novembre 1974. Les premières critiques sont relativement partagées, mais beaucoup saluent néanmoins la qualité intrinsèque du disque, et Musicien Magicien reçoit un accueil majoritairement enthousiaste de la part des radios et du public. Seulement, entre la fin de l'enregistrement et la commercialisation de l'album, Atoll connaît certaines dissensions internes, surtout entre Luxera et les autres membres, ce qui pousse André Balzer à quitter momentanément le groupe en octobre, ce dernier étant remplacé au chant pour les concerts qui vont suivre par Serra lui-même, qui en a également profité pour inviter le violoniste Richard Aubert à rejoindre la bande. Mais cette formation ne durera pas, puisque les tensions de plus en plus vives entre Serra et les autres vont très vite amener le guitariste à quitter définitivement le groupe et à se retirer du monde de la musique, et Richard Aubert, sentant l'avenir d'Atoll incertain, suit le mouvement et s'en va rejoindre le groupe Diwo Do Room. Pourtant, et malgré un tas de concerts annulés du fait de la défection des deux bonhommes, les membres restants se laissent pas démonter et se mettent en quête d'un nouveau guitariste. Ils demandent donc dans un premier temps à Christian Beya, un musicien qui avait justement remplacé Jean-Luc Thilot au sein de Diwo Do Room après son départ, mais celui-ci décline, car confiant dans la capacité de son groupe à percer après l'arrivée d'Aubert. Ils se rabattent donc sur Jean-Claude Monet, un guitariste qui avait fait ses armes à Nancy avec divers groupes, et qui accepte, séduit par l'idée de jouer avec un groupe qui avait déjà sorti un album. Ils en profitent pour enrôler aussi le pianiste Bruno Guéhin, qui jouait avec Monet dans le groupe Arc, et retrouvent André Balzer, qui récupère son poste de chanteur. Tout ce petit monde se lance alors en public à partir de janvier 75, après moult répétitions, et en profitent pour tenir leurs engagements vis-à-vis des concerts qu'ils n'avaient pas pu assurer. Cette formation ne durera hélas pas davantage, puisque Monet quitte le groupe en mars, fatigué de devoir courir les cachets. Car en raison de l'absence d'un manager pour les chapeauter, les musiciens peinent à trouver eux-mêmes des lieux où jouer. Les membres restants retentent du coup leur chance auprès de Christian Beya, qui ce coup-ci accepte, car déçu de l'impasse vers laquelle semble se diriger Diwo Durum. Ils en profitent alors pour continuer d'étayer leur répertoire scénique et vont également pendant cette période accompagner un chanteur qui commence à percer, Bernard Lavillier, avant de se préparer pour enregistrer un deuxième album. Et là du coup, tu crois que ça va se stabiliser, hein ? Mais que nenni ! Puisque Bruno Guéhin annonce à son tour son intention de quitter le groupe pour des raisons financières. Ce qui se fera après l'enregistrement du disque, et Beya suggère de réintégrer en remplacement Richard Aubert, qui accepte la proposition 2 semaines avant d'entrer au studio Gang. Ah, ce jeu des chaises musicales au sein des groupes, c'est fascinant. D'ailleurs, pour l'anecdote, Guéhin participera après ça à l'élaboration de l'album Les Barbares de Lavillier. Mais bref, l'enregistrement se passe sans encombre, mais la sortie est repoussée en raison d'un problème lors de la fabrication du vinyle. Et c'est finalement en décembre 75 que sort ce qui va être considéré par la presse comme le meilleur album de l'année 75, L'Araignée Mâle. Même si l'album est très bien reçu, le moral est cependant pas au beau fixe, toujours pour des raisons d'argent, et les musiciens se voient obligés de continuer à faire des extras en accompagnant d'autres personnes pour pouvoir payer les factures. Fatigué, le batteur Alain Gozo, qui vient juste de se marier, quitte le groupe et est remplacé par le jeune strasbourgeois Didier Hoffmann. Pourtant, en termes de vente, L'Araignée Mâle commence à faire réellement parler de lui, en dehors des milieux spécialisés, puisqu'il s'en vend bien vite 15 000 exemplaires en France, là où Musicien Magicien s'était écoulé à 9 000 exemplaires. Le disque est même commercialisé dans d'autres pays, comme le Canada, l'Espagne, l'Allemagne ou la Belgique. Et mieux encore, Atoll devient très populaire au Japon, puisque 7000 exemplaires de L'Araignée Mâle sont vendus en à peine 10 jours après sa sortie là-bas. Un succès qui se démentira pas au pays du soleil levant pour les albums qui suivront. Mais le peu d'investissement que met la maison de disques dans la promotion et la distribution en France et à l'étranger limitera malheureusement davantage l'expansion du succès du disque. Une version en anglais destinée au marché anglophone sera même enregistrée quelques temps plus tard, mais sera jamais commercialisée, pour des raisons qu'on ignore. Néanmoins, ça suffit à Atoll pour se remotiver, et le groupe continue à organiser des tournées lui-même, puisque peu aidé par leur nouveau manager, Xavier Dubuc, qui préfère se concentrer sur la carrière d'un autre groupe de prog français, Pulsar, et peut-être que je te parlerai d'eux un jour. Ils trouvent durant leur tournée un nouveau manager, Henri Le Renard, qui réussit à leur obtenir quelques dates supplémentaires durant lesquelles Atoll fait un tabac. Mais là, coup dur pour Didier, durant un concert à Nancy, Alain Gozo, qui était venu assister à la représentation, fait un petit happening durant la dernière chanson en reprenant son poste de batteur, et finit par récupérer son poste, provoquant à terme le départ d'Hoffmann. Mais c'est pas tout, puisque Richard Aubert quitte lui aussi le groupe à la fin 76 pour cause de divergences artistiques, les autres membres ayant décidé de se concentrer sur un style qui lui convient pas. Il est finalement décidé de ne pas le remplacer, et Atoll se stabilise enfin plus ou moins dans une Formule à 5, avec André Balzer au chant, Alain Gozo à la batterie, Jean-Luc Thillot à la basse, Christian Beya à la guitare et Michel Taillé au clavier, mais change néanmoins à nouveau de manager et confisque aussi leur destin à un certain Dan Lecomte qui était leur ingénieur du son et qui leur donnera rapidement bien plus satisfaction. Cette configuration se met donc au travail en vue d'un troisième album et Atoll entre en studio en juillet 77, toujours au studio Gang à Paris, et ce pendant 3 semaines. Il en ressort alors l'album Tertio qui paraît en octobre 77. Tertio, au contraire de son prédécesseur, adopte un style plus concis et remet plus en avant le chant avec des titres un peu moins longs, mais toujours aussi sophistiqués. De plus, l'album accueille deux invités de prestige en la personne de Lisa Deluxe et Stella Vander, deux des choristes historiques de Magma, groupe français culte des années 70, une touche féminine bienvenue qui apporte un plus indéniable au disque. Cette recette semble en tout cas payer, puisqu'une fois encore, l'album est très bien reçu, que ce soit en France ou à l'international, et il s'en vend bien vite 30 000 exemplaires. Fini pour eux les premières parties ou les scènes partagées avec d'autres artistes, désormais Atoll tient à être tête d'affiche. Cette popularité leur permettra en tout cas d'atteindre la consécration scénique avec le premier Olympia du groupe en tant que vedette le 17 avril 1978. Et pourtant, ce succès croissant va devenir un problème, puisque leur maison de disques, Eurodisc, qui jusque-là donnait pas vraiment au groupe toute l'attention qu'il méritait, débarque comme une fleur pour leur demander, en voyant les derniers bons chiffres de vente, de diversifier davantage leur musique, afin de produire évidemment plus de morceaux commerciaux. Et qu'est-ce qui marche très bien à cette époque ? Et bah entre autres choses, le disco. Au début, pas super chaud, les gars comprennent malgré tout rapidement qu'il vaut mieux pour eux qu'ils tentent de s'adapter un petit peu à leur époque, plutôt que de persister dans un courant qui n'est plus guère apprécié à ce moment-là. Ils se mettent donc au travail à partir de l'été 78 et commencent à élaborer de nouveaux morceaux pour le prochain album. Un travail d'écriture qui va prendre quasi un an pour se concrétiser. Ils enregistrent une première démo en mai 79 qui permet au label de se faire une idée de la direction prise par ce quatrième disque et qui, hasard formidable, va également atterrir sur le bureau d'une productrice américaine qui cherchait justement un morceau qui pourrait servir de générique à une émission basée sur les jeux Atari qu'elle produisait et qui se montre très intéressée par une des chansons de cette démo appelée Smarto Kichi. Et devine quoi, et ben ça c'est fait, ils l'ont un peu retravaillé et y ont mis des paroles en anglais, et cette version s'appelle du coup Atari What's the Game. C'est marrant, non? Mais bon, ça arrivera qu'après, et on n'en est pas encore là, puisqu'Atoll enregistre son nouvel album du 25 juin au 13 juillet, encore au studio Gang, et Rock Puzzle sort donc en septembre. Une nouvelle fois, l'album est très bien reçu par la presse, qui salue la capacité d'adaptation du groupe, et il se vend aussi bien que Tertio. On peut croire après ça qu'Atoll est parti pour poursuivre son ascension, mais c'est malheureusement à partir de là que la machine va se gripper, puisque tous les membres en ont assez de trimer à ce point pour se faire connaître du grand public alors que d'autres groupes français à peine nés se font direct un nom à la même époque. Ils profitent d'une clause dans leur contrat pour quitter Eurodisc et chercher une nouvelle maison de disques, et commencent également à bosser sur un cinquième album. Mais comme je t'ai dit, tout le monde est à cran et des dissensions apparaissent qui poussent Jean-Luc Thillaud à quitter le groupe, suivi peu de temps après par André Balzer et Christian Beya, laissant Michel Taillé et Alain Gozo seuls maîtres à bord. Et c'est là qu'entre en scène un personnage qui aurait pu changer à tout jamais le destin d'Atoll, John Wetton. Wetton, si tu le connais pas, et ben c'est un bassiste anglais de légende, déjà reconnu comme tel à l'époque puisqu'il avait fait partie de groupes tels que King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep et UK, un super groupe dans lequel on retrouvait Bill Bruford de Yes et King Crimson et Alan Holdsworth de Soft Machine. Alain Gozo l'avait rencontré peu de temps avant, durant un concert, et lui avait demandé si ça l'intéresserait de produire le prochain album du groupe, ce qu'il avait accepté après avoir entendu L'Araignée Mâle. Quelques semaines passent, et Wetton reconfirme sa décision auprès des musiciens français restants, qui lui demandent tant qu'à faire s'il connaîtrait pas aussi un chanteur qui pourrait les rejoindre, vu que le leur s'est barré. Et surprise, le groupe UK s'étant séparé, et bah Wetton se propose lui-même, puisqu'il cumulait souvent son poste de bassiste avec celui de chanteur dans ses anciens groupes. Wetton rejoint donc Metz pour bosser sur de nouvelles chansons avec Taillé, Gozo et le guitariste Jean-Jacques Fletty, nouvellement engagé, et cette nouvelle formation enregistre bien vite une démo de 3 chansons en anglais au studio Polydor à Paris, en espérant justement que Polydor se décide à les signer. Malheureusement, le super pouvoir de l'administration va doucher les espérances des musiciens, puisque Polydor et EJ, la maison de disques de John Wetton, ne parviendront pas à trouver un accord satisfaisant pour permettre à cette nouvelle mouture d'exister contractuellement, forçant de fait Wetton à retourner en Angleterre. Le coup de grâce est asséné un mois plus tard, lorsque les Français, ayant réussi à convaincre le label RCA de les engager, recontactent l'Anglais pour lui demander de revenir, et que celui-ci leur répond qu'il a malheureusement accepté de rejoindre entre-temps le supergroupe Asia, composé de Geoff Downes, ex-Buggles, Steve O, ex-Yes, et Carl Palmer, ex-Emerson, Lake & Palmer. Dévastés par cette annonce et ce coup du sort, les membres restants dissolvent le groupe en 81, et c'est la fin d'Atoll. Chacun des musiciens des deux derniers albums se disperse et tous s'en vont vivre de nouvelles aventures dans de nouveaux groupes, en en formant de nouveaux pour certains, en en rejoignant d'anciens pour d'autres, jusqu'à ce qu'en 87, André Balzer et Michel Taillé, accompagnés de deux autres musiciens, ne tentent un revival qui ne durera qu'un an sous le nom d'Atoll Sud, et qu'en 89, Christian Beya ne publie un nouvel album sous le nom d'Atoll appelé L'Océan, ainsi qu'un album live enregistré au Japon. Pourtant, ces deux albums n'ont d'Atoll que le nom, puisque le style est bien différent de celui des albums précédents, et qu'il est en fait le seul membre d'origine entre guillemets à y participer, tous les autres musiciens étant des nouveaux. Depuis, c'est un peu le boxon, puisque entre le début des années 90 et aujourd'hui, Atoll a connu plusieurs réincarnations. Une toujours actuelle menée par Michel Taillé et complétée par de nouveaux musiciens qui semblent plus trop jouer les anciennes chansons. Une autre créée par Beya qui a publié un nouvel album en 2003 avant de se produire sur scène en tant que Chris Beya Atoll, formation qui existe toujours. Et encore une autre menée par André Balzer qui s'est produit avec de nouveaux musiciens entre 2013 et 2015 sous le nom d'André Balzer's Atoll. Néanmoins, grâce aux Japonais qui désiraient voir se produire Atoll à Tokyo avec le plus de membres historiques possible, les deux derniers mentionnés se sont retrouvés sur scène en 2018 lors d'un concert spécial en compagnie également du batteur Didier Hoffman. C'est marrant comme la popularité d'Atoll en Asie a jamais vraiment faibli. En tout cas, ça se comprend, puisque le groupe a su proposer un rock progressif attractif, digne des grands groupes anglais de l'époque, et en français dans le texte, s'il te plaît. Et même sur Rock Puzzle, censé être un peu plus commercial et accessible, le groupe a su malgré tout pondre des petites perles raffinées comme OH2O.
Ce soir, c'est l'autre que je viens chercher. Imagine les déserts.
J'habite une cour au fond de l'eau. Tous les canards s'y baignent.
Mais je vais revenir sur Rock Puzzle. Comme je te l'ai dit, par rapport aux trois premières productions d'Atoll, celle-ci change un peu. Même si chacun de ces trois disques possédait une identité propre, la ligne directrice restait néanmoins toujours à peu près la même. Atoll délivrait un rock progressif inspiré de la virtuosité de groupes anglais comme Yes ou Genesis, en y parsemant par moments un peu de jazz fusion et ne déviait pas trop de cette route. Dans Rock Puzzle, poussé par leur maison de disques, les musiciens ont un peu plus diversifié leurs horizons. En faisant appel à une section corde et une section cuivre, en rappelant les choristes Lisa Deluxe et Stella Vander, et en incluant dans leurs morceaux des éléments de rock'n'roll et de disco par exemple, afin d'attirer le plus grand nombre. C'est pas pour rien que le seul single qui sera commercialisé de Rock Puzzle, c'est le morceau Smart Okichi, le plus disco du lot. Certains y voient une trahison, mais il faut comprendre que c'était absolument nécessaire dans le contexte de la fin des années 70 si le groupe voulait avoir une chance de continuer à exister. Et franchement, je trouve qu'ils s'en sont vraiment très bien tirés, le mariage est réussi. Ils sont parvenus à synthétiser les divers éléments qu'ils avaient à disposition pour en faire une musique à la fois plus facile d'accès et pourtant toujours aussi sophistiquée, là où pas mal de groupes progressifs à la même époque se sont perdus en tentant de réitérer la même formule qui marchait plus ou en s'engouffrant peut-être la première dans le rock FM. Ce qui se défend aussi, hein, et il y a eu de très bonnes choses de faites dans le genre. Mais pas mal d'amateurs de prog désavouent complètement cette période pour cette raison, frustrés d'avoir vu leurs artistes préférés céder aux sirènes de la musique « facile » entre guillemets. Quand il sort en vinyle, en 79, Rock Puzzle compte 8 chansons et dure à peu près 45 minutes. Et curieusement, les premiers à rééditer en CD cet album en plus du reste de la discographie, eh ben ce sont les Japonais, à la fin des années 80. Ah mais quand je te dis que les Japonais, ils adorent le groupe, je te mens pas, hein, il est culte là-bas. Je peux pas non plus t'affirmer que tous les Japonais le connaissent, mais les amateurs de rock en général, si. En France, c'est le label Musea qui va s'en charger très peu de temps après, au tout début des années 90, et qui va en profiter pour ajouter quelques petits bonus. La version CD de Rock Puzzle contient donc, en plus des morceaux originaux, les premières versions des titres Puzzle et l'Ultime Rock, ainsi que la fameuse version anglaise de Smarto Kichi, Atari That's a Game. Et cerise sur le gâteau, les trois morceaux enregistrés avec John Wetton, dont la chanson Here Comes the Feeling, qui figurera l'année suivant la séparation d'Atoll, en 82, sur le premier album d'Asia, et qui cartonnera. Je pense qu'en voyant ça, nos Français, ils ont dû avoir un peu les boules quand même. Pour finir, comme je t'ai dit, je suis pas sûr qu'on puisse dire que Rock Puzzle soit foncièrement le meilleur album du groupe. Faut dire que chacun de leurs disques possède des atouts bien à eux, et globalement, il y a une sorte de consensus entre les admirateurs d'Atoll pour dire que leur meilleure production, c'est soit l'Araignée Mâle, soit Tertio, qui adoptent tous les deux des postures assez contraires, hein, donc c'est vraiment selon les préférences de chacun. Cependant, Rock Puzzle compte plusieurs morceaux d'anthologie, dont deux qui font partie des meilleurs du groupe à mon sens. OH2O et Puzzle, qui font presque office de résistants au milieu de cette galette, puisque c'est vraiment les deux morceaux les plus progressifs du disque. Alors écoute, on se dit que le groupe avait mûri et affûté son talent d'écriture dans le style, et qu'il s'agit presque en fait d'un échantillon de ce qu'aurait pu donner la future musique du groupe si on l'avait laissé exister comme il l'entendait, et s'il avait connu plus de succès. C'est vraiment dommage, mais bon, il nous reste au moins ses 4 premiers albums. Bref, je te conseille de te plonger là-dedans, bien entendu, et moi je vais y aller, et te laisser avec le fameux Puzzle. Allez, à la prochaine, ciao.
Un oiseau, un pommier, un prévert, en tourbillon spirale. Et plus je m'approchais du trou noir, plus les cubes devenaient petits. Et le jeu difficile, le dessin même avait changé de forme. Il devenait abstrait, laissant au centre. We'll be right back.
Je marche lentement vers l'est, j'entends par derrière des regards angoissés.